Alors, au cours de ces rencontres, comme la thématique c'est à Jésus par Marie, on m'a demandé simplement de faire un commentaire ou même de lire le commentaire qui est fait dans ce missel particulier, relativement récent, Messe en l'honneur de la Vierge Marie. Donc ce sont des messes en l'honneur de la Vierge Marie qui considèrent chacun de ces mystères. Et donc il y a une messe pour le cœur immaculé de Marie. Il y en a déjà une qui est prévue par la liturgie au lendemain du Sacré-Cœur. Mais là, c'est plus élaboré. Il y a d'autres lectures qui sont proposées. C'est plus précis. Et surtout, l'intention théologique est plus affirmée. Alors, ce missel spécial avec des messes en l'honneur de la Vierge Marie découle de tout l'enseignement de l'Église sur la Vierge Marie depuis le Concile Vatican II, en fait. Avec le Concile Vatican II, on a recentré le culte en l'honneur de la Vierge Marie de façon très juste. Auparavant, il y avait un petit peu un risque de dévotion qui était trop centré uniquement sur la personne de Marie, alors qu'on oubliait qu'elle-même est centrée sur la personne du Christ. Donc, si on se tourne vers Marie, comme le dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est pour mieux accéder au Christ lui-même. Je ne sais pas si on pourrait fermer la porte qui est au fond, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et donc, le Concile Vatican II parle de la Vierge Marie au dernier chapitre, toute la dernière partie de la Constitution Lumen Gentium, qui est la Constitution en fait qui parle de l'Église. Le Concile n'a pas voulu faire un chapitre spécial à Marie. Le Concile voulait intégrer la Vierge Marie dans le mystère de l'Église, en tant qu'elle, en elle, l'Église est pleinement accomplie. Mais c'est aussi comme elle et en elle que nous suivons le chemin, notre chemin de pèlerin sur cette terre, dans l'Église, qui doit finalement nous amener à l'église de la Jérusalem céleste, l'église triomphante, à la vie éternelle. Et donc cette nouvelle compréhension de la Vierge Marie, bien intégrée dans le mystère du salut, sans en faire une personne complètement à part, disons, avec un culte qui serait complètement déconnecté du Christ ou de la vie des croyants, et bien fort de cet enseignement du Concile Vatican II, du coup, on a pu composer des messes en l'honneur de la Vierge Marie de façon très diverse, parce qu'on considérait que ces messes-là, c'était comme autant de chemins, de routes, de voies d'accès à la personne même du Christ. Donc, le samedi de la troisième semaine après la Pentecôte, ou alors, pour faire plus simple, le lendemain, le samedi, le lendemain de la solennité du cœur de Jésus, la liturgie célèbre la mémoire du cœur immaculé de Marie. Ce que je vais faire là, je vais surtout vous lire les commentaires qui sont très profonds. D'une part, les introductions sont très précises et très nourrissantes théologiquement, mais aussi les prières elles-mêmes, préfaces, prières sur les offrandes, etc., sont très pleine d'instructions pour mieux approfondir le mystère même de Marie, donc le cœur immaculé de Marie. L'expression, nous dit le missel, est à comprendre au sens biblique. Le cœur désigne la personne même de Marie, son être unique, le plus intime, le centre et la source de sa vie intérieure, de son intelligence et de sa mémoire, de sa volonté et de son amour. Bref, le cœur synthétise tout le mystère de Marie, comme d'ailleurs pour nous, il synthétise aussi tout notre propre mystère. Le cœur, c'est le lieu de notre identité la plus profonde, selon la Bible. Le cœur, c'est là où nous sommes vraiment nous-mêmes, pleinement. C'est en descendant dans notre cœur que nous découvrons que nous sommes uniques et irremplaçables. C'est en descendant dans notre cœur que nous découvrons notre vraie richesse, comme, en ce qui nous concerne nous, notre vraie misère aussi. Le cœur comme centre de la personne humaine, de sa prise de conscience, de ses richesses comme de ses pauvretés, tout cela est exprimé admirablement au chapitre 15 de Saint Luc, avec l'enfant, le fils prodigue, qui a vécu à la surface de lui-même, en gaspillant tous ses biens. Mais c'est quand il était dans le besoin, au milieu des porcs, ne pouvant même pas se nourrir de la nourriture des porcs, il est dit, donc ce verset est très important, entrant alors en lui-même, c'est-à-dire il descend au niveau de son cœur. Entrant alors en lui-même, alors il découvre, il se rappelle qu'il est fils, il se rappelle qu'il a un père, et il voit aussi tout ce qu'il a fait, comment il a gaspillé cette vocation sacrée de fils. Alors il dit, voilà, j'ai péché, je vais retourner vers mon père. Et c'est la conversion. Donc ça, ce qui est vrai pour nous, le cœur comme centre même de notre vie, de notre personne, est vrai bien sûr aussi pour la Vierge Marie, sauf qu'en elle, bien sûr, il n'y a pas l'ombre d'un péché. Mais toute sa richesse, toute sa volonté, son intelligence, son amour, sa mémoire, tout cela est à situer au niveau de son cœur. Le cœur au sens biblique, anthropologique, pas uniquement le cœur au sens du muscle cardiaque, qui est indispensable à la vie, mais beaucoup plus que ça. Donc, le cœur immaculé de Marie, c'est l'expression de l'amour total dont elle a aimé Dieu et ses frères, et avec lequel elle s'est donnée tout entière à l'œuvre de salut de son Fils. C'est par une décision libre et aimante de son cœur qu'elle est entrée dans le mystère de Dieu. Cette messe, donc, du cœur immaculé de Marie, célèbre la miséricorde de Dieu qui a donné à l'Église le cœur du Christ Jésus, ce qu'on appelle son sacré cœur. La miséricorde de Dieu a donc donné à l'Église le cœur du Christ Jésus en témoignage de son amour, de l'amour du Père. Et qui lui a donné aussi, à l'Église, à contempler le cœur de la mère de son Fils, comme justement le modèle du cœur nouveau, au cœur de la nouvelle alliance. Toutes ces promesses faites par Dieu encore dans l'alliance avec Israël, dans l'Ancien Testament. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai à la place de votre cœur de pierre un cœur de chair, etc. Tout cela s'accomplit pleinement en Marie. Elle a vraiment, dès le premier instant de son existence, ce cœur entièrement nouveau, parce que totalement préservé du péché et de ses conséquences. Donc le cœur immaculé de Marie est le modèle du cœur nouveau au cœur même de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui commence avec le mystère de l'Annonciation et qui culmine avec l'Eucharistie. Lorsque Jésus dit lui-même, « Voici, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. » Donc déjà, on perçoit d'emblée que le cœur de Marie est un sanctuaire très saint qui donne accès au cœur de son Fils. Le cœur de Marie qui a accueilli de toute sa foi et de tout son amour le Verbe de Dieu, C'est avec son cœur qu'elle a dit oui, son fiat. Avec son intelligence aussi, mais son intelligence était totalement soumise à l'intégrité de son cœur. C'est l'intelligence du cœur. Ce n'est pas une intelligence purement spéculative ou calculatrice ou cérébrale. Donc c'est le cœur de Marie qui a accueilli de toute sa foi et de tout son amour le Verbe de Dieu, notamment lorsqu'elle a dit « fiat » à l'Annonciation, est appelée d'abord la demeure de la parole de Dieu. Le cœur de Marie est la demeure de la parole de Dieu. Puisque vraisemblablement, l'épisode même de l'Annonciation n'est pas né comme ça, ne surgit pas comme ça de rien. La visite de l'ange, les paroles de l'ange retentissent dans un cœur qui est déjà pleinement imprégné par la parole. Marie, la plus parfaite des filles de Sion, méditait déjà la parole, bien avant la révélation de sa maternité exceptionnelle. Elle était plongée dans la parole de Dieu. C'est pour cela que la visite de l'ange, en fait, ne l'a pas troublée. C'est pas la visite de l'ange qui la trouble, c'est l'élection dont elle est l'objet. Parce qu'elle reconnaît dans les promesses de l'ange qui lui sont faites des paroles de l'Ancien Testament. Notamment, surtout quand l'ange lui dit « L'enfant que tu vas mettre au monde, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » L'ange reprend les promesses de Dieu prononcées par le prophète Nathan à l'égard du roi David, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Et tout ça, Marie était familière avec cela. Et c'est parce que déjà elle vivait cette parole que du coup, la parole de l'ange a eu une résonance très particulière. Alors là, elle a pu être troublée. Comment se fait-il que cette élection tombe sur moi ? Que c'est moi qui va être la mère du Messie. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Il a daigné, ça c'est plus tard, le Magnificat, il a daigné abaisser les yeux sur son humble servante, sur l'humilité de sa servante. Donc, le cœur de Marie est d'abord appelé la demeure de Dieu, la demeure plutôt de la parole de Dieu, la parole. D'ailleurs, quelle va être exactement le fiat, la réponse de Marie à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle ne dit pas qu'il me soit fait selon ce que tu me dis, toi, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Parce que toi, tu portes la parole de Dieu. L'archange ne peut pas faire autre chose que porter la parole de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Donc, demeure de la parole de Dieu et sanctuaire en même temps de l'Esprit Saint. À cause de l'Esprit de Dieu qui demeurait en elle, qui demeurait déjà en elle dès le premier instant de son existence, de sa conception immaculée, mais qui la couvre de son ombre en vue de sa maternité divine. Donc sanctuaire de l'Esprit Saint. C'est aussi un cœur immaculé, c'est-à-dire exempt de toute trace de péché. Il y a un verset de la Bible dans l'Ancien Testament qui annonce ce mystère, très court. C'est dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé qui dit à la bien-aimée, « Tu es toute belle, ma bien-aimée, sans aucune tâche ou sans tâche aucune. » Et la tradition de l'Église applique ce verset comme une sorte de verset annonciateur de l'Immaculée Conception et du cœur immaculé de Marie. Donc un cœur exempt de toute trace de péché. Le cœur immaculé de Marie est aussi un cœur sage. Là, l'introduction, elle passe en revue tous les attributs qui vont revenir ensuite dans les prières, que ce soit la préface, que ce soit les autres prières de la liturgie. Un cœur sage parce que la Vierge Marie, comparant les prophéties et les événements, garder dans son cœur la mémoire des paroles et des faits en rapport avec le mystère du salut. Elle gardait tout en son cœur. Elle méditait tout dans son cœur. Elle confrontait les paroles et les événements entre eux. Ce qui est le propre de la sagesse. Celui qui scrute la parole de Dieu devient sage. Le cœur immaculé de Marie est aussi un cœur docile qui s'attache avec bonheur au commandement du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Mais déjà, tout au long de sa vie, Marie, bien avant l'Annonciation déjà, mettait complètement en pratique la loi du Seigneur, en méditant la parole, en vivant les fêtes liturgiques de son peuple, en priant, d'une prière déjà toute immaculée. Cœur docile, qui s'attache avec bonheur au commandement du Seigneur. Un cœur nouveau, nous l'avons déjà dit, selon la prophétie d'Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, parce qu'elle est revêtue, ou plutôt que ce cœur est revêtu de la nouveauté de la grâce méritée par le Christ. En fait, nous le savons, théologiquement, la grâce de l'Immaculée Conception, d'un point de vue chronologique, forcément est donnée avant la naissance du Christ, avant toute chose, en vue de la maternité divine de la Vierge Marie. Mais l'origine logique, théologique, de son Immaculée Conception, c'est que c'est en fait une grâce anticipée, mais qui a sa source dans le sacrifice du Christ. C'est là que Marie naît réellement, logiquement. Mais à cause de sa maternité et du plan de Dieu, cette grâce la touche de façon anticipée. Et c'est donc là, justement, qu'il est dit un cœur nouveau. Le cœur nouveau, selon la prophétie d'Ézéchiel, parce que revêtu de la nouveauté, de la grâce méritée par le Christ. Et ce mérite se situe où ? Il se situe, bien sûr, sur la croix. Pas avant. Sur la croix. Le cœur immaculé de Marie est aussi un cœur doux, à l'image du Christ, à l'image du cœur du Christ, qui lui-même demande à ses disciples, « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Or, Marie est la disciple par excellence, la première des disciples, la plus accomplie. Donc, elle a un cœur doux et humble. Et cet attribut lui est aussi donné donc, par la liturgie. Un cœur simple aussi, étranger à toute duplicité, pas du tout partagé. Et tout entier perméable à l'esprit de vérité. Un des attributs principaux de Dieu, c'est de dire que Dieu est simple, infiniment simple, dans son être et dans son action. Et donc, Marie est comme le cœur immaculé de Marie est comme un reflet de cette simplicité. Et en plus, elle est perméable à l'esprit de vérité, qui est la simplicité lui-même. Le cœur immaculé de Marie est un cœur pur, c'est-à-dire, selon la béatitude du Seigneur, capable de voir Dieu. Heureux les cœurs purs, dit la béatitude, car ils verront Dieu. Ça s'applique à elle immédiatement, dès le premier instant de son existence. Un cœur ferme pour embrasser la volonté de Dieu, lorsque, selon la prophétie de Siméon, la persécution s'abattrait sur son fils, la passion, la croix, et elle le verra mourir aussi. Elle sera au pied de la croix. Et là donc, elle a ce cœur immaculé avec cet attribut de la fermeté, comme une grâce reçue particulièrement de la fermeté même du cœur de son divin fils. Le cœur de son fils a été transpercé. Submergé de souffrance, mais ferme, C'est cette fermeté qui nous donne, à qui nous devons la victoire, justement. Il a été submergé par la souffrance, englouti littéralement. Mais il est resté ferme. Comme dit l'Ancien Testament, parlant du serviteur souffrant, mais repris par l'épître de saint Pierre, voilà, insulté, il ne rendit pas l'insulte, s'en remettant à celui qui juge avec justice. Il ne haussait pas le ton, il ne haussait pas la voix. La fermeté du cœur de Jésus, c'est quelque chose qu'il faut contempler alors qu'il était submergé. Et c'est en restant branché sur lui que nous pouvons recevoir nous aussi, par grâce, un tout petit peu de cette fermeté lorsque nous traversons des épreuves. Voilà. Oui, il y a une épreuve, mais le Seigneur ne m'abandonnera pas. Et finalement, cette épreuve, comme un long tunnel peut-être, me conduira à une telle plénitude de lumière que je ne me souviendrai plus ensuite des souffrances. Donc un cœur ferme, particulièrement au pied de la croix, pour embrasser la volonté de Dieu, lorsque la persécution s'abattrait sur son fils et qu'elle le verrait mourir en croix. Le cœur immaculé de Marie reçoit aussi l'attribut de vigilant, un cœur vigilant, car lorsque le corps de Jésus repose au tombeau, tout le samedi saint en particulier, elle veille, comme le cœur de l'épouse du cantique, « Je dors, mais mon cœur veille », dans l'attente de la résurrection du Seigneur. On peut même dire que toute la foi de l'Église, le samedi saint, repose uniquement dans le cœur immaculé de Marie. Les autres sont complètement dispersés, les apôtres, paniqués, dispersés. Tout est unifié, la foi de l'Église, l'avenir de l'Église repose en ce cœur ferme et vigilant, douloureux, invisiblement transpercé, mais nullement anéanti. Donc lorsque le corps de Jésus reposait au tombeau, elle veillait comme le cœur de l'épouse du cantique, et elle veillait dans l'attente de la résurrection du Seigneur. Donc voilà déjà une première introduction faite par le missel lui-même et que j'explicite toujours un petit peu. Maintenant, nous allons entrer dans la liturgie elle-même. Il y a donc une antienne d'ouverture. Sainte Vierge Marie, en toi est la grâce de tout chemin et de vérité. En toi est toute espérance de vie et de force. Puisqu'elle a vécu dans une adéquation parfaite à la volonté de Dieu, à la volonté de son Fils, puisque toute sa vie, ses paroles, son attitude, tout son chemin étaient entièrement orientés, aimantés, on pourrait dire, par l'amour du cœur de son Fils et par la volonté aussi du cœur de son Fils, alors c'est en elle qu'on trouve tout chemin de vérité, d'espérance, de vie, de force. En cela, le cœur immaculé de Marie est pour nous un sanctuaire très saint, justement, où nous entrons dans cette union de son cœur immaculé avec le cœur de son divin Fils, de telle sorte que notre propre cœur, à nous, peut être unie au cœur de Jésus, par Marie, en vertu de l'union du cœur de Marie avec le cœur de son Fils. Alors maintenant, nous allons décliner un petit peu les prières qui sont proposées. La prière d'ouverture, ce n'est pas l'antienne d'ouverture, c'est la prière, donc ce qu'on appelle l'oraison, qui est toujours très riche dans ce missel. Seigneur notre Dieu, tu as fait du cœur immaculé de la Vierge Marie la demeure de ta parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint. Donc ça, nous avons déjà vu en quoi ça consiste. Donc ça, c'est la constatation. On présente le mystère. Mais maintenant, la demande va être celle-ci. La demande est toujours pour nous. Accorde-nous un cœur pur et docile pour que sur le chemin de tes commandements, nous soyons fidèles à t'aimer par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Que nous soyons fidèles à l'image de Marie, mais plus encore, à travers son cœur immaculé, auquel nous avons recours, auquel nous nous attachons, auquel, dans un certain sens, nous entrons, comme dans un sanctuaire très saint. Accorde-nous donc un cœur pur et docile. Et c'est pour cela que nous prions si souvent la Vierge Marie. Pour que nos prières à nous, nos demandes, qui sont toujours un petit peu traversées d'ambiguïté, d'ombre, ou de refus, ou de résistance, ou de péché, ou d'intérêt, que nos prières soient rendues pures, dociles et immaculées par le cœur immaculé de Marie, et puissent ainsi plus sûrement atteindre leur but, à savoir le cœur de Jésus, le cœur de la Trinité, et recevoir les grâces pour accueillir la réponse ou les réponses que le Seigneur veut nous faire, ou la manière dont il veut nous exaucer. Alors ensuite viennent les lectures choisies par le missel marial sont très parlantes. La première lecture est tirée du livre de Judith. Alors je rappelle que Judith, c'est cette héroïne de l'Ancien Testament qui va complètement vaincre le pire ennemi de l'époque, Holoferne, qui s'apprêtait avec son armée toute puissante à investir Jérusalem et à détruire Jérusalem. Alors il faut lire le livre de Judith, comment elle est envoyée par les autorités de Jérusalem qui sont complètement paniquées, parce que la force de l'armée de Holoferne semble complètement indestructible. Donc c'est la ruine. Mais Judith se propose. Déjà un petit peu comme un sacrifice. Elle annonce d'une certaine façon, voici, je suis la servante du Seigneur. J'accepte d'entrer dans ce mystère de salut. Alors ça va se faire à travers tout un épisode. Alors, je ne voudrais pas vous décevoir, mais faut savoir que dans la Bible dit toujours des choses qui sont vraies par rapport à l'enseignement. Mais toutes les histoires qu'elle raconte ne sont pas nécessairement vraies. Le livre de Judith n'est pas un livre historique. C'est ce qu'on appelle un midrash, c'est-à-dire un conte, mais qui dit par contre quelque chose de profondément vrai par rapport à l'élection d'Israël, à la force d'Israël, non pas de sa propre force à lui, mais de la force même de Dieu. Et donc de la sainteté, en l'occurrence, d'une femme qui risque sa vie, un risque mortel. Elle va aller trouver Holoferne dans sa tente. Elle va jouer le jeu de la séduction. Elle va dire qu'elle en a assez de son peuple, qu'elle fuit son peuple et qu'elle veut se mettre au service de l'armée de Holoferne. Alors ne venez pas me dire maintenant si canoniquement c'est un mensonge, moralement je ne sais pas quoi. C'est une ruse, évidemment. Mais c'est en vue de... Alors Holoferne est complètement envoûté par Judith. Il l'invite à sa table plusieurs fois. Et un beau jour, elle descend donc dans sa tente, et là, le festin est absolument magnifique, mais elle s'arrange pour enivrer, pour que Holoferne soit complètement ivre. tellement ivre qu'il est complètement dans la torpeur. Après, il s'endort d'un sommeil, il cuve son vin. Mais voilà, tous les autres décident de laisser Holoferne seul avec Judith, bien sûr. Vous voyez bien pourquoi, c'était calculé. Et on pensait que Judith se prêterait à ce jeu. Seulement voilà, Holoferne est complètement abruti de vin, incapable de réagir, alors elle lui coupe la tête. Et puis elle sort dans la nuit, peu à peu. Personne ne la voit, je crois. Tous les gardes sont eux-mêmes endormis parce qu'ils ont eu aussi leur dose de vin, je ne sais pas quoi que c'est. Et elle retourne à Jérusalem pour dire « ça y est, j'ai vaincu notre pire ennemi ». Alors le lendemain au réveil, je ne vous explique pas la panique dans l'armée de Holoferne. Ils fuient tous, ils se demandent ce qui est arrivé. Et Judith, alors elle est célébrée à Jérusalem. Et c'est ça la lecture qui est proposée. Tout le peuple était dans l'enthousiasme. Il s'inclina et il adora Dieu. Tous s'écrièrent d'une seule voix, « Tu es béni, toi, notre Dieu, qui a anéanti en ce jour les ennemis de ton peuple. » Et alors Ozias, le chef du peuple, parle à Judith et déclare, « Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, entre toutes les femmes de la terre. » Vous reconnaissez un écho de « Tu es béni entre toutes les femmes ». Voyez, entre toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, lui qui t'a conduite pour blesser à la tête le chef de nos ennemis. Or, la liturgie voit dans l'épisode de Judith une annonce très claire de la femme de l'Apocalypse, qui est aussi la Vierge Marie, et qui écrase la tête du serpent. Le pire ennemi pour nous, c'est le serpent, c'est le dragon, c'est Satan. Par son oui, par son humilité, par sa présence au pied de la croix, par sa soumission, son absence totale de révolte ou de murmure, elle écrase la tête du serpent. Alors, elle est comme une nouvelle Judith. Vous voyez ? Donc, c'est particulièrement approprié d'avoir cette lecture-là. « Jamais l'espérance dont tu as fait preuve, dit Ozias à Judith, ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. » Si on dit ça de Judith, combien plus maintenant dans l'Église, jusqu'à la fin des temps, on le dira de la Vierge Marie. « Et que Dieu t'exalte pour toujours et qu'il te récompense parce que tu as risqué ta propre vie. » Alors, Marie n'a peut-être pas risqué sa vie, elle a donné sa vie. Elle a renoncé au mariage, elle a renoncé à une descendance naturelle, « qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle a quand même couru un risque. C'est un saut dans la foi. Elle a confiance dans la parole de Dieu. Mais ce n'était pas confortable. Et surtout, elle a risqué, si je puis dire, sa foi à plusieurs reprises. Elle aurait pu murmurer. Combien de fois elle aurait pu murmurer ? Elle reçoit une parole extraordinaire comme quoi le fils prendrait le trône, serait sur le trône de David, son père, une naissance royale, quoi. Et voilà que Elle donne naissance à son fils dans les pires conditions qu'on peut imaginer de pauvreté, au cours d'un recensement où tout le monde n'est qu'un numéro anonyme. Il n'y a pas de place dans la salle commune. Elle enfante là dans l'étable des animaux. Il n'y a qu'une crèche pour accueillir, une mangeoire pour accueillir son fils. Elle ne murmure pas. Elle garde toutes ces choses en son cœur. Son fils disparaît à 12 ans pendant 3 jours. Elle est dans l'angoisse, mais elle ne murmure pas, elle ne récrimine pas, même pas vis-à-vis de son fils. Juste une question, pourquoi nous as-tu fait cela ? Elle ne lui est pas tombée dessus. Elle a gardé ces choses dans son cœur, même si elle ne comprenait pas. Il est dit clairement dans l'épisode du recouvrement du temple qu'elle ne comprit pas, pas plus que Joseph. Ils ne comprirent pas ce qu'il avait dit, qu'il doit être dans la maison du Père. Et au pied de la croix, alors là, elle avait toutes les raisons de se révolter. Eh bien non, elle risque sans cesse dans ce sens-là sa vie, sa foi, son engagement. Et si tout ça, c'était pour rien, pour aboutir à cet échec, le fils qui meurt comme un brigand sur la croix, eh bien non, elle s'est tenue debout jusqu'au bout. Tu as risqué ta propre vie pour la cause de notre nation humiliée. et tu es intervenu pour empêcher notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Au pied de la croix, Marie a agi résolument. Elle a fait la seule chose que Jésus ne pouvait pas faire. Jésus est allé jusqu'au bout de son sacrifice, mais il fallait une réponse à son sacrifice. Il fallait que l'humanité réponde. Et Jésus ne peut pas répondre lui-même à son propre sacrifice. Il faut une altérité. C'est la Vierge Marie qui a donné sa réponse par son silence et sa présence debout au pied de la croix. Et tout le peuple donc dit « Amen, Amen ». Lorsqu'ils entrèrent chez elle, tous la bénirent d'une seule voix et lui dirent « Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la grande fierté d'Israël, tu es le grand orgueil de notre race. » C'est beau. Eh bien, c'est ce que dit l'Église maintenant à la Vierge Marie, jusqu'au bout. Le Seigneur t'a exalté dans sa gloire, il t'a surélevé, tu es la reine des cieux, tu as remporté la victoire avec l'agneau, tu as été en tout immaculé, voilà. Les louanges à la Vierge Marie. Tu es le grand orgueil de notre race. Tu es la grande fierté, on pourrait transposer, de l'Église. Tu es la gloire de la Nouvelle Jérusalem. Voilà ce qu'on dit à Judith. Et s'il vous reste dans le cœur un tout petit regret ou une nostalgie parce que cette histoire n'est pas vraie, en Marie, elle est vraie, justement. Et c'est bien plus beau. En Marie, on peut vraiment exalter. Donc ça, c'est la première lecture. Alors, le psaume n'est pas un psaume, c'est le cantique. Nécessairement, c'est le Magnificat. Alors là, c'est tout le cœur de Marie Immaculée qui parle, qui s'exprime. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, on me dira bienheureuse tous les âges. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Elle ne se met pas en avant, elle considère que tout est reçu par grâce, par pure grâce. C'est le chant d'exaltation du cœur immaculé de Marie. C'est la louange qui vient de son cœur, du plus profond de son cœur. Elle était peut-être déjà dans la louange avant, mais elle était surtout dans la vigilance, dans une prière continuelle depuis l'événement de l'Annonciation. Bien sûr, elle y croyait. Mais ce n'était pas clair pour elle comment cela allait se faire. Même avec les paroles de l'ange, l'Esprit ça viendra sur toi, très bien. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. N'empêche qu'elle ne sait pas comment ça va réellement se faire, logiquement, réellement. Mais le cri de joie d'Élisabeth, qui l'accueille, tu es bénie entre toutes les femmes, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi? Cette parole ouvre son esprit, est une confirmation de ce qu'elle a vécu à l'Annonciation. Alors du coup, elle laisse échapper sa louange. C'est là qu'elle reçoit la confirmation de tout ce qu'elle a reçu à l'Annonciation. Et peut-être la découverte ici même de la grâce de l'Immaculée Conception, dont elle n'était peut-être pas forcément consciente jusqu'ici. Alors là, c'est son cœur qui parle, qui loue, et c'est le modèle de toutes les louanges, la plus pure de toutes les louanges. Donc le Magnificat, retenait ça comme le chant de louange qui vient vraiment du cœur immaculé de Marie. Alors la liturgie de cette messe en l'honneur du cœur immaculé de Marie prévoit deux évangiles au choix. Le premier est simple, il est dans Saint-Luc, les deux sont d'ailleurs dans Saint-Luc. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est très sobre comme évangile. Mais donc cette femme exalte la maternité de Marie en regardant Jésus, en voyant ce qu'il fait. Il dit « Mais quelle merveille cette femme qui a pu te porter et qui t'a nourri. » Et Jésus, il corrige un petit peu le tir, il ne nie pas cela, mais il dit « beaucoup plus heureux, et donc implicitement heureuse ma mère, parce qu'elle n'est pas seulement mère biologique, selon la chair, il y a une maternité spirituelle. Elle est ma mère d'abord parce qu'elle a gardé la parole de Dieu, d'abord parce qu'elle l'a entendue, d'abord parce qu'elle l'a accueillie et d'abord parce qu'elle l'a gardée. C'est pour ça qu'elle est heureuse, plus que d'avoir donné naissance comme une multitude de mères peut donner naissance à des enfants. Donc, c'est un très bel évangile qui nous parle du cœur immaculé de Marie. Jésus est plus, d'une certaine façon, l'enfant du cœur immaculé de Marie que des entrailles maternelles, physiques, de la Vierge Marie. Le Verbe a pu prendre chair dans le sein de la Vierge Marie à cause de la pureté de la foi, de l'obéissance, de la docilité et de l'accueil de ce cœur à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on peut dire que dès le premier instant, dès l'Annonciation, dès ce moment-là, les deux cœurs sont unis, le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Puisque le cœur de Jésus va être formé substantiellement, comme le dit la litanie du Sacré-Cœur, sous le cœur virginal de Marie. Donc voilà, cet évangile est très beau à cause de ça. Mais l'autre évangile est peut-être plus profond. C'est précisément le recouvrement au temple. Donc on commence par dire, il est peut-être plus riche. On commence par dire, Jésus est resté à Jérusalem, ses parents le cherchent, vous connaissez l'histoire. Ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Et ils le trouvent finalement dans le temple au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Vous avez bien noté que là, d'un point de vue scripturaire et spirituel, c'est une annonce de la passion. Elle va perdre Jésus. Et le 3e jour, il va ressusciter. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » C'est indispensable que nous ayons cette parole. Il y a d'une part les paroles de louange et d'exaltation ou d'exultation de la Vierge Marie, Magnificat, mais il y a une parole de douleur ici. Je le dis parce qu'à la croix, il n'y aura pas de parole. Elle sera tout silence. Il est indispensable que son cœur immaculé, qui est donc pleinement humain, s'exprime aussi de cette façon-là. C'est un cœur immaculé qui a connu l'angoisse. L'angoisse ne lui a pas été épargnée parce qu'elle est immaculée. L'enfant a disparu pendant 3 jours. Elle était mortellement angoissée. Il faut qu'il y ait le témoignage de cette angoisse qui vient du cœur immaculé. Pour qu'on comprenne mieux ensuite le prix même de la docilité qui va suivre. Elle accepte de ne pas tout comprendre. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. Il leur dit, comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon père que je dois être. Mais ils ne comprirent pas. Et elle accepte de ne pas comprendre. Elle est le modèle, là, de la vraie maternité, responsable. Elle cherche son enfant jusque dans l'angoisse. Mais ensuite, elle ne va pas dire « Comment as-tu osé faire cela à moi, ta mère, après tout ce que j'ai fait pour toi, etc. » Ce n'est pas une mère possessive, ni revendicatrice. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils rentrent dans le silence. Il descendit avec eux pour entrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Voilà. C'est pour ça que cet évangile-là me semble plus riche, parce qu'il nous montre tout le chemin de pèlerinage finalement de la Vierge Marie, qui ressemble au nôtre, sauf que le sien est immaculé, mais il n'est pas plus simple, au contraire, pour autant. Elle est dans l'angoisse et elle l'exprime, même sous forme de reproche. Comme le psalmiste, que fais-tu, Seigneur? Pourquoi nous as-tu fait cela? Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? C'est un petit peu un écho à la parole de Jésus en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, pourquoi nous as-tu abandonné? Jésus répond, en se référant complètement au Père, comme s'il disait à sa mère de façon sous-entendue, mais rappelle-toi, tu n'es pas la mère de n'importe quel fils, tu es la mère du Fils de Dieu. Et c'est à lui que j'appartiens. Tu m'as mis au monde pour que, en tant qu'homme et que Messie et que Sauveur, je puisse manifester mon appartenance au Père. C'est chez lui que je dois être. Et pas tout le temps chez maman, à Nazareth. Même s'il y retourne après. Donc, elle passe par là, par ce questionnement. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert. Puis, à Nazareth, elle garde tous ces événements dans son cœur. Elle accepte. Elle accepte cette écharde qui a déjà transpercé son cœur. Elle cherche à comprendre. Elle va prier. Son assentiment est total. Et ça, c'est le cœur immaculé de Marie. Cœur déjà transpercé, mais toujours docile. Toujours victorieux de la volonté de Dieu, s'accomplissant en elle. Donc un très bel évangile, finalement, ici. Sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Après l'évangile, donc, il y a la prière sur les offrandes, alors qui est peut-être un peu plus classique, mais quand même, pose un regard, Seigneur, sur les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Vierge Marie. Et accorde-nous, en suivant son exemple, de garder fidèlement les trésors de grâce de ton Fils et de les méditer sans cesse. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Donc voilà, de garder fidèlement, accorde-nous, de garder fidèlement les trésors de grâce de ton Fils et de les méditer sans cesse. Nous demandons cette grâce d'avoir, à l'image du cœur immaculé de Marie, cette capacité de garder les événements à la lumière de la volonté de Dieu et les paroles mêmes de Dieu. Voilà, et de les méditer sans cesse, comme elle le fait dans l'épisode du recouvrement au temple. Alors maintenant vient la préface, et c'est toujours ce qu'il y a de très riche aussi dans ce missel marial. Les préfaces sont pleines d'instructions, très élaborées bibliquement, spirituellement et théologiquement. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Et c'est là maintenant qu'on va décliner tous les attributs qu'on a vus déjà dans l'introduction. Car tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile pour qu'elle accomplisse parfaitement ta volonté. Un cœur nouveau et doux, où tu pourrais graver la loi de l'alliance nouvelle. Alors là, c'est très biblique. La loi de la première alliance a été gravée sur des tables de pierre, sur le Sinaï, gravée par Dieu lui-même, dit la tradition d'Israël. La loi de la nouvelle alliance est non plus gravée sur des tables de pierre, mais sur le cœur de la Vierge Marie. Donc un cœur nouveau et doux où tu pourrais graver la loi de l'alliance nouvelle. Un cœur simple et pur pour qu'elle puisse concevoir ton fils en sa virginité et te voir à jamais. » Ça, c'est de nouveau référence à la dernière des béatitudes. Non, ce n'est pas la dernière, mais enfin, une des dernières. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Donc, un cœur simple et pur, pour qu'elle puisse concevoir ton fils en sa virginité et te voir à jamais. Un cœur ferme et vigilant, pour supporter sans faiblir l'épée de douleur, cela fait référence à la parole de Siméon lors de la présentation au temple, lorsqu'il dit « Un glaive te transpercera l'âme, l'épée de douleur, et attendre avec foi la résurrection de ton fils. » Elle a tenu au pied de la croix, elle tiendra dans la douleur, certes, peut-être même submergée de douleur, tout le samedi saint, mais croyant. Comme elle avait cru en l'incarnation sans savoir comment cela allait se faire, le samedi saint, elle a cru en la résurrection sans du tout savoir comment cela allait se faire. Donc un cœur ferme et vigilant pour supporter sans faiblir l'épée de douleur et attendre avec foi la résurrection de ton fils. C'est pourquoi avec tous les anges, etc. Après, c'est la préface classique. L'antienne de la communion qu'on dit lorsqu'il n'y a pas de chant, elle reprend ce verset. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Et enfin, la prière après la communion. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Donc, on se relie à la mère du Fils pour recevoir davantage, pour éprouver davantage les effets de la rédemption, puisqu'elle est la première intégralement sauvée, la première qui bénéficie déjà par avance du mérite de son Fils sur la croix. Et qu'à notre tour, nous puissions éprouver les effets de la rédemption qui nous a été méritée par le Fils de Dieu et qui est en même temps conjointement le Fils de la Vierge Marie. Voilà.